bienvenue à la Villa Créative. Je suis absolument ravie, ainsi que toute l'équipe des arts du spectacle, de notre programme ICAR, de vous accueillir ici. Je voudrais tout d'abord remercier le président de l'université, à l'Union Université, M. Linares, d'être parmi nous, et également l'accueil très chaleureux de la Villa Créative, en particulier donc, Laurent Lombard, qui est donc, le directeur scientifique de la Villa Créative et vice-président délégué à la recherche. Donc ces deux journées s'inscrivent pleinement dans l'ambition d'ICAR, produire une recherche menée avec et pour les professionnels des industries culturelles et créatives, en faisant dialoguer les savoirs scientifiques, les expériences de métier, les institutions publiques, les collectivités, les organisations syndicales, les associations et la société civile. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous aurons l'occasion de reparler hein, d'ICAR et de ce qu'est ce programme de recherche. Mais je cède la parole donc, tout de suite à M. Linares.
Merci. Un mot très rapide pour vous souhaiter la bienvenue à l'Université d'Avignon à la Villa Récréative. On est très heureux de vous accueillir ici. Alors, je ne veux pas vous parler de censure, mais quelques mots quand même de l'histoire longue de l'Université d'Avignon. L'Université d'Avignon a été créée en 1303. Par les papes qui trouvaient que la Sorbonne était trop proche du pouvoir royal. Ça parle pas de censure, mais un peu d'émancipation quand même. Même si nos relations avec l'Église sont pas du tout du même ordre maintenant, et que l'émancipation sous la tutelle de l'Église s'interroge un peu, mais enfin peu importe, c'est une histoire que j'aime bien raconter quand même pour placer un peu l'université, puis parler peut-être de liberté académique, quelque chose qui sont tout à fait d'actualité. L'Université d'Avignon, c'est une petite université qui s'est engagée il y a plus de 15 ans maintenant dans un processus de différenciation. Enfin, on a cherché il y a une quinzaine d'années, pour plein de raisons que je ne vais pas développer là, mais à développer une identité scientifique singulière qui s'est structurée autour de deux axes, l'un agro-sciences, environnement et santé, et l'autre culture, patrimoine et société numérique. La dernière étape majeure de ce processus, ça a été la création de deux instituts, un institut culture, patrimoine, société numérique, et un institut agro-sciences, environnement et santé, et qui sont des structures internes à l'établissement, et la création de la Villa Créative, et de son pendant à venir sur le champ des agro-sciences et de l'environnement, la Villa Naturalité. La Villa Créative, c'est un endroit qui est... c'est un lieu qui est à l'interface de l'université, de l'environnement socio-économique, ou socio-culturel, et c'est un instrument qui est bien plus qu'une extension de l'université. C'est un endroit qui est dédié à l'écosystème territorial de la culture et des industries créatives. Donc c'est un endroit qui est vraiment à l'interface science, création et société. Et je crois qu'il y a des choses très stratégiques qui se jouent à cet endroit-là, stratégiques pour les universités, mais pas seulement. Voilà, donc c'est un lieu qui est très innovant, pas seulement dans cette vocation, ce positionnement qui est un peu particulier, c'est aussi un lieu innovant de par sa conception. Initialement, vous l'avez vu, c'est une architecture qui est assez typique des écoles normales du 19e, mais en tout cas c'est une réhabilitation, c'est assez clair, c'est une réhabilitation qui a coûté près de 18 millions d'euros, financé par le contrat plan interrégion, signé par l'architecte Alfonso Pena, qui a fait aussi la réhabilitation des docks à Marseille. Mais ce qui est original, c'est surtout que c'est une société universitaire et de recherche qui exploite le lieu. Alors, les sociétés universitaires et de recherche étaient un appel à manifestation d'intérêt qui a été ouvert dans le cadre du PIA3. Nous sommes les seuls lauréats de cet appel à projet, ce qui peut paraître un peu inquiétant comme ça. On a l'impression que c'est une victoire, et puis c'est bizarre quand même d'être les seuls à avoir joué. En tout cas, c'est un appel à projet qui nous a permis de confier l'exploitation de cet endroit à une société de droit privé, une société par action simplifiée, dont l'université est le premier actionnaire aux côtés de l'État, la Banque des Territoires, et d'un acteur privé, la société éthique, qui est spécialisée dans l'administration et la gestion des biens culturels. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire très rapidement, c'est que la Villa Créative, c'était à la fois un lieu qui était innovant pour ce qu'elle porte, mais aussi pour la façon dont elle est construite. Et ça, c'est un montage qui suscite beaucoup d'intérêt, évidemment, de la part des acteurs territoriaux, c'est un peu leur espace, leur objet. Ça suscite aussi beaucoup d'intérêt d'autres universités en France, parce que je crois que c'est un projet qui marie à la fois une exigence que la plupart des universités, à laquelle la plupart des universités sont maintenant confrontées, qui est de se construire une identité scientifique propre, singulière, d'avoir un projet d'établissement qui est structuré, un projet scientifique porté par un établissement qui est un projet qui doit être structuré, mais aussi de répondre à une exigence qui est celle de la soutenabilité économique. Et ça, on y est tous soumis. Donc la valorisation du patrimoine, ça pourrait être vu comme un sujet, une question qui est un peu orthogonale à celle du projet d'établissement. Mais ce qu'on a réussi à faire avec la Villa Créative, c'est finalement faire converger ces trois aspects-là. Valorisation du patrimoine, le projet d'établissement et la signature scientifique d'un établissement qui doit exister dans un environnement dans lequel on doit absolument être. Voilà, c'est un endroit assez singulier. On est très heureux de vous accueillir ici et je vous souhaite un bon... une bonne journée, peut-être plusieurs jours, je ne sais pas combien de temps dure.
Deux jours
de travail. Merci à tous.
Puisse être accueilli et donc on est très heureux de voir la réalisation de ces points d'échange avec un grand merci à l'équipe de la Villa Créative pour l'organisation de votre accueil. Vous avez un thème qui finalement est un thème en écho un peu avec la journée d'hier qui était une journée particulière pour nous puisque nous avons reçu le ministre de la Culture au sein de la Villa Créative et nous avons ensuite débattu en table ronde de façon informelle avec. Et il est vrai qu'avec les échanges avec les instituts, les institutions culturelles présentes, il n'y a pas l'idée d'une censure, mais plutôt un questionnement sur un éventuel empêchement lié à l'économie qui a suscité quelques échanges très intéressants sur la façon dont le politique et dont l'artistique peuvent encore dialoguer. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que finalement, les débats d'hier vont se continuer aujourd'hui avec votre manifestation. Et donc on est très heureux, très heureux d'écouter, évidemment. Et si je peux me permettre une petite pensée pour l'ancien directeur du festival Olivier Py, qui a été un artiste engagé contre toutes les formes de censure. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes présent à Avignon, c'était intéressant de faire ce petit rappel artistique. Bon travail.
Alors j'ai décidé, donc bonjour à tous, moi je suis Solveig Serge, directrice de recherche au CNRS, je suis historienne et musicologue. Et depuis 4 ans, je porte avec mon collègue David Cœur-Joly, qui est tout comme moi, informaticien, le programme de recherche industrie culturelle et créative. Et comme c'est la dernière journée de l'année universitaire, on a dû en organiser 50, je pense, cette année, j'ai décidé de ne pas présenter le programme et de faire autre chose. Alors je dirais juste du programme, mais j'avais des choses à dire sur le sujet de la journée. Je dirais juste du programme, donc on constitue le volet recherche de la stratégie nationale d'accélération de l'industrie culturelle et créative, qui a été voulu par le président de la République, et que la mission qui a été confiée au CNRS est de mettre la recherche au service des industries culturelles et créatives pour les accompagner dans leurs grands enjeux. Alors l'État disait surtout numérique, mais aussi économique, sociaux, de transition, tous les enjeux qui brûlent en ce moment, et à mon avis la censure en fait partie. Alors, je vous m'excuse, j'ai écrit pour une fois. Donc je suis très heureuse d'ouvrir en compagnie de Georges Linares et de Laurent Lombard, et au nom du programme de recherche industrie culturelle et créative, ces deux journées intitulées « Libres de créer » point d'interrogation, les arts vivants face aux censures. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'aime ouvrir mes interventions par « Il était une fois ». Aujourd'hui, ce sera plutôt « Il était deux fois ». J'ai choisi de raconter deux histoires et de les mettre en regard parce qu'elles concernent nos deux communautés réunies à l'occasion de cette rencontre, la culture et la recherche. Deux histoires qui interrogent frontalement les conditions mêmes de possibilité de la création et de la recherche lorsqu'elles sont contestées, fragilisées ou reconfigurées sous contrainte. Deux histoires qui, au-delà de leur singularité, disent quelque chose de plus large des tensions qui traversent aujourd'hui l'ensemble des espaces de la vie démocratique. Première histoire. Il était une fois la pièce Passeport d'Alexis Michalik, qui raconte l'histoire d'Issa dans le camp de la jungle de Calais et met en scène des parcours d'exilés. Cette pièce, programmée, validée et inscrite à la saison théâtrale de la Villa de Castres, pour février 2027, a été annulée en juin 26 par décision de la municipalité Rassemblement National. Le maire, Florian Azéma, a justifié cette annulation en invoquant le contenu de l'œuvre, jugé incompatible avec les orientations défendues pendant la campagne électorale, notamment en raison de sa représentation des migrants et des forces de l'ordre, et en ajoutant, je cite, que l'argent public devait être dépensé correctement. Deuxième histoire. Il était une fois une institution prestigieuse de la recherche française, le Collège de France, qui devait accueillir les 13 et 14 novembre 2025 un colloque intitulé « La Palestine et l'Europe, poids du passé et dynamique contemporaine », organisé par l'historien Henri Laurence et le Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Quelques jours avant sa tenue, ce colloque est annulé par l'administrateur du Collège de France dans un contexte de fortes controverses publiques et à la suite d'interventions politiques, dont celle du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui qualifiera ensuite cette décision de responsable sur le réseau X. Ces deux histoires ne sont pas des exceptions. Elles s'inscrivent dans une série de faits désormais bien documentés, spectacles déprogrammés sous pression, œuvres retirées de festivals, artistes empêchés de présenter leur travail, chercheurs privés de la possibilité d'organiser un colloque ou de soutenir la thèse. Peu importe, au fond, que l'on apprécie ou non ces œuvres, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu est ailleurs, et il est simple et exigeant à la fois. Voulons-nous d'un espace public où la création est évaluée après avoir été vue, ou d'un espace où elle est disqualifiée avant même d'exister ? Voulons-nous d'un espace public où le débat cède la place à l'interdiction et la confrontation des idées à leur effacement? Au-delà de la diversité des cas, une même question s'impose, celle des conditions dans lesquelles la création et la recherche peuvent encore se déployer librement et être mises en débat dans l'espace public. Certes, dans les deux cas, ces situations ont suscité de nombreuses réactions dans les milieux concernés, confirmant la forte sensibilité de ces enjeux aujourd'hui. Le ministère de la Culture a ainsi présenté, en décembre 2024, un plan d'action pour la liberté de création et de diffusion artistique face à la montée des atteintes à ces libertés, qu'il s'agisse de déprogrammation, de menaces, de cyberharcèlement ou d'empêchement d'accès aux œuvres. Dans ce cadre, un guide juridique et pratique a également été publié en juillet 2025, visant à outiller concrètement les acteurs en précisant le cadre juridique, les réflexes à adopter et les voies de recours possibles. De la même manière, France Université a rendu public en octobre 2025 10 propositions issues d'un rapport consacré à la liberté académique, intitulé « Défendre et promouvoir la liberté académique, un enjeu mondial, une urgence pour la France et l'Europe », qui dessine une feuille de route visant à consolider le cadre juridique de la liberté académique, à renforcer sa protection dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et à mieux garantir les conditions concrètes de son exercice face aux pressions extérieures. Pas plus que la connaissance ne progresse en confirmant ce que nous savons déjà, la liberté de création n'existe pas pour protéger les œuvres consensuelles. Elle existe précisément pour protéger celles qui dérangent, qui interrogent, qui déplacent les frontières du pensable. Les œuvres culturelles et intellectuelles nous permettent de voir ce que nous ne voulons pas voir. Elles rendent visibles des expériences ignorées, elles donnent forme à des conflits souvent invisibles, elles ouvrent des espaces de discussion là où il n'y avait parfois que du silence ou de l'affrontement. En ce sens, elles produisent quelque chose de profondément précieux, la possibilité de penser autrement. Or, cette possibilité n'est jamais acquise, et ici c'est l'historienne des marges qui vous parle, pour avoir passé de nombreuses années à travailler sur des formes d'expression contestées ou minoritaires, je sais que les espaces de liberté disparaissent rarement d'un seul coup, ils s'érodent, se rétrécissent et se fragilisent. Et leurs premiers signes sont souvent discrets. Une exposition annulée, une programmation modifiée, un spectacle déprogrammé, un artiste écarté, un sujet de recherche jugé trop sensible, une œuvre que l'on préfère ne pas montrer pour éviter la polémique. Pourtant, il me semble qu'une démocratie n'est pas une société dans laquelle personne n'est choqué. C'est une société capable d'organiser le désaccord sans faire taire celles et ceux qui l'expriment. Dans cet horizon, les institutions culturelles, comme les organismes de recherche, jouent un rôle essentiel. Ils constituent des lieux où la complexité peut encore être accueillie, où l'incertitude peut être explorée, où le débat peut se construire autrement que dans l'immédiateté des réseaux sociaux ou la logique de l'affrontement permanent. À une époque où les fausses informations circulent plus vite que les faits, où les simplifications l'emportent souvent sur les nuances, où l'émotion tend parfois à remplacer la délibération, recherche et création apparaissent plus nécessaires que jamais. L'une produit des connaissances, l'autre des imaginaires, et toutes deux contribuent à renforcer la démocratie. C'est autour de cette conviction que nous avons souhaité organiser ces rencontres. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et je vous souhaite des échanges exigeants, libres et, j'espère parfois aussi, inconfortables. Je vous remercie beaucoup.